Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h, Neumann Le Chypre.
Troisième édition du concours des meilleurs artisans de France. Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier, on est ensemble jusqu'à 15h sur RMC, sur RMC Story. Ça y est, vous les attendez depuis des mois, on en parle depuis pas mal de temps, du concours des meilleurs artisans de France. La finale a eu lieu hier, ils sont avec nous, c'est lauréat et dans un instant, on va connaître le détail des épreuves d'hier.
Waouh, ça c'est jusqu'à 14h, parce qu'à partir de 14h, on va parler des tornades, du dérèglement climatique, de ces épisodes de grêle, de canicule, etc. Est-ce que le dérèglement climatique, ça vous fait peur ou pas? Il y a débat avec Emmanuel. On vous attend au 32-16. Venez nous raconter si vous-même vous avez subi ces intempéries.
Mais avant le concours des meilleurs artisans de France, hier s'est déroulé au Paris Event Center la grande finale. Le thème, c'était le Japon. Il a fallu créer des mosaïques de carrelage, des structures de plâtre, des coiffures, des constructions florales. 42 artisans se sont affrontés dans 7 catégories différentes et un prix spécial pour gagner le tampon du meilleur artisan de France et quelques sous aussi, parce qu'il y a 14 000 euros à se partager entre les lauréats. On va parler technique dans un instant avec tous nos gagnants qui sont là autour de nous avec leurs médailles. Mais avant, ça change quoi le tampon du meilleur artisan de France? José Fonseca, bonjour, vous êtes délégué technique WorldSkills France. Vous accompagnez ce concours depuis plusieurs années. Je vais finir de présenter et après vous allez nous expliquer qu'est-ce que change ce tampon. Avec nous pendant cette heure également Michel Lascoutounas, vous êtes directeur B2B Peugeot France, un utilitaire quand même quand on est artisan, c'est important. On va en parler ensemble dans un instant. On est aussi avec Patrick Babi, délégué général des relations avec les institutions professionnelles MAF Assurance. Idem, une bonne assurance.
C'est important.
C'est important. On va parler que de choses importantes pendant cette heure. José Fonseca, le tampon meilleur artisan de France, ça apporte quoi?
Ce tampon, au-delà de l'expérience que les jeunes artisans et moins jeunes auront vécu pendant cette journée de compétition, apporte une réelle reconnaissance. Une reconnaissance de leurs pairs qui les ont jurifiés pendant ces épreuves. Et puis, ça démontre, ils ont l'occasion de démontrer que en France, nous avons des métiers qui sont porteurs d'excellence. Et nous sommes en France plutôt bien positionnés donc, dans ces métiers-là.
En Skype avec nous également Ludovic Bonnet, directeur marketing et communication de Bigmat. Ludovic Bonnet, on a hier commencé à discuter avec nos artisans. On a eu quelques-uns qui nous disaient franchement, cette année, on a rempli nos carnets de commandes, on a embauché. On entendait, je crois, l'un d'entre vous nous dire qu'il avait embauché son frère pour pouvoir faire tourner son entreprise. Est-ce que vous aussi, dans les matériaux, vous sentez que ça repart?
Ah ben ça repart beaucoup effectivement. D'abord parce que on a eu la chance nous pendant le confinement tout ce qui était construction de ne pas vraiment fermer donc de continuer à travailler. Et là effectivement ça repart de plus belle avec des problèmes majeurs mais dont vous connaissez sans doute bien les tenants et aboutissants chez RMC. C'est justement cette problématique aujourd'hui de fourniture de matériaux puisqu'il y a une grande tension sur les matériaux.
Oui, Laurent, tu lèves la main.
Oui, je lève la main parce que c'est vrai que plus de la moitié des artisans dans le domaine du bâtiment, notamment, travaillent pour les particuliers. Vous dites que ça redémarre aussi vis-à-vis des entreprises ou c'est plutôt sur le marché des particuliers?
Alors, ça redémarre sur les deux, en fait. Ça n'a jamais arrêté. Alors, effectivement, les particuliers, pendant le confinement, ont beaucoup, et c'est sans doute lié au confinement, justement, fait des demandes de travaux parce qu'ils avaient envie de bricoler et puis aussi parce qu'ils se sont rendus compte, étant chez eux, tout d'un coup qu'ils avaient besoin et envie de changer et de rénover des choses chez eux. Et là, depuis quelques temps, effectivement, depuis la fin du confinement, les entreprises également redémarrent fortement en demandant beaucoup, beaucoup de rénovation ou de construction.
Alors, on est avec nos lauréats. On va leur donner la parole. Lisa Marie, c'est toi qui vas te tourner vers chacun d'entre eux qui sont derrière nous. Sinon, on serait tous collés. Mais comme il y a la crise sanitaire, on s'adapte. Avec qui tu veux commencer, Lisa Marie?
On va commencer avec Kevin. Kevin Vrant, c'est le lauréat du meilleur artisan fleuriste. Comment ça va, Kevin? Et comment ça s'est passé hier?
La pression, elle redescend un petit peu. Donc, ça va. Par contre, hier, c'est vrai que c'était intense au niveau du timing et la créativité, quoi, surtout. Hein. Donc, on a quand même bien profité. C'est des expériences qui sont grandissantes, enfin, qui nous permettent de grandir. C'est surtout des rencontres. Et là, on a eu une organisation qui était top, donc ça, c'était génial. Après, au niveau du concours, on a eu plusieurs épreuves différentes. Ça nous a permis de nous exprimer, de transmettre de l'émotion, et je crois que c'est avant tout le mot d'ordre de notre profession, quoi, de transmettre de l'émotion. Donc j'espère qu'on aura réussi à transmettre ça au jury et à ceux qui ont.
Nous, on n'était pas là, mais ça avait l'air d'être une journée sympa, en fait.
Juste une question pratique, vous aviez tous les mêmes matériaux et matières premières au départ?
À la base, on avait tous les mêmes matières premières, les mêmes fleurs, les mêmes matériaux. Et après, c'était à nous de répartir en fonction des 4 épreuves qu'on avait sur la journée.
D'accord, ouais. Ok.
Alors, on continue à parler des artisans dans leur ensemble. Chacun va nous raconter ce qu'il a vécu hier, bien sûr. Mais avant, Michel Lascoutounas, on parlait en rigolant tout à l'heure en disant un utilitaire, c'est important. C'est pas du tout une blague. Vous êtes chez Peugeot France, chez le B2B. Quand on, bon, évidemment, les grandes boîtes ont tous une flotte de véhicules, bon, déjà dont ils s'occupent eux. Mais un artisan, son véhicule utilitaire, son choix, c'est essentiel.
C'est essentiel, effectivement, parce que effectivement, on vend des voitures à des grandes sociétés, à des grandes entreprises françaises, à des grandes sociétés internationales. Mais c'est vrai que l'artisan, pour nous, est une clientèle très importante. Parce qu'on sait que quand un artisan vient acheter un véhicule utilitaire, c'est un vrai compagnon de route dans le cadre de ses activités. C'est un investissement qui s'inscrit sur la durée. Et c'est vrai que nous essayons, pour cette clientèle qui représente quand même une majorité de nos ventes aujourd'hui, hein, au sein du B2B, de les accompagner au mieux.
Est-ce que vous personnalisez vraiment jusqu'au bout? Parce que j'imagine qu'aucun artisan n'a la même envie, les mêmes besoins qu'un autre en matière de véhicule utilitaire.
On prend le projet dans sa globalité, on essaie d'accompagner le client pour lui personnaliser le véhicule. Bien sûr, ça se fait des fois avec le partenariat et le concours de certains carrossiers. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous accompagnons ses clients. Nous avons d'ailleurs un réseau dense de concessionnaires qui peuvent accueillir ses clients, et notamment des concessionnaires qui sont labellisés Peugeot Professional Center, qui ont vraiment vocation plutôt à accueillir cette typologie de clientèle pour les aider à s'équiper en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités liées à leur activité.
On parle évidemment de l'utilitaire qui permet d'aider. On va parler notamment aussi d'un autre compagnon de l'artisan. L'assurance, c'est très important. On l'a vu notamment pendant la crise sanitaire. Il y a parfois eu des difficultés avec des assureurs. C'est très important de se pencher sur son contrat, de tout lire, de regarder les petites lignes et de comparer, j'imagine.
Tout à fait. Alors, juste pour commencer, je voulais juste rappeler ce que veut dire MAF pour situer. MAF, c'est Mutuelle d'Assurance Artisanale de France.
Et on la base, c'était l'artisan.
Voilà, on est très fiers de notre EA d'artisanat, puisqu'on a été créé en 1950 par et pour les artisans. Et cette année, c'est une année particulière pour nous et importante, puisque c'est notre 70e anniversaire. Et donc, on est contents, à la fois pour nos équipes et pour nos clients, bien sûr. Et depuis 70 ans, on accompagne effectivement les artisans, à la fois pour leur vie professionnelle ou dans leur vie particulière, bien sûr. Et ça, dans tous les secteurs des métiers de l'artisanat. Et effectivement, comme vous le dites, c'est important de bien faire attention à son contrat d'assurance, d'être acteur dans le choix de son contrat d'assurance et de choisir un partenaire. Et c'est de cette on se positionne en tant que partenaire assureur complet pour accompagner les artisans tout au long de la vie de leur entreprise.
Parce que là aussi, on peut faire comme avec le véhicule utilitaire, un peu du cas par cas en fonction du métier.
Tout à fait. En fait, on a à peu près 540 agences en France. Donc déjà, on peut venir nous voir. On est bien situé partout, bien maillé en France. Mais on a aussi surtout 300 à peu près chargés de clientèle professionnelle qui se déplacent, qui vont à la rencontre des artisans dans leur entreprise.
Est-ce qu'il y a des nouvelles demandes, des nouveaux risques qui apparaissent?
Alors oui, il y a toujours, ça évolue. Y compris dans l'artisanat, bien sûr, puisque l'artisanat est en train de se numériser beaucoup, et la crise l'a fait et l'a poussé.
Donc le cyber-risque, ça concerne aussi les artisans.
Ça arrive, effectivement, le cyber-risque, c'est un risque qui arrive de plus en plus, effectivement, fréquent. Mais nos chargés de clientèle adaptent, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, effectivement, chaque contrat d'assurance est différent. Et donc doit être adapté à l'entreprise. Et effectivement, c'est important d'avoir les bonnes garanties et les bons besoins.
Oui. Laurent, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, parce que c'est la question que j'allais poser. J'imagine qu'un contrat d'assurance pour un artisan carreleur, pour un artisan spécialiste de l'art floral ou de la coiffure, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a la taille de l'entreprise, mais il y a le métier. Est-ce que vos contrats sont faits sur mesure, profession par profession?
Absolument, tout à fait. Nous, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des secteurs des métiers. On est vraiment spécialiste de tous les métiers de l'artisanat et nos collaborateurs les connaissent et sont capables effectivement de rencontrer un coiffeur le matin, un boucher l'après-midi, un maçon et d'apporter la réponse adaptée.
Il y a des couvertures avec des risques différents.
Spécifiques, bien évidemment. Dans le bâtiment, vous avez des couvertures décennales notamment et ça c'est obligatoire et effectivement c'est spécifique au bâtiment. Mais après, on va retrouver des garanties qui se ressemblent mais qui sont tout à fait adaptables à chaque profession, bien évidemment. Les risques ne sont pas les mêmes.
Oui. Vous accompagnez le prix prévention des risques professionnels MAF, c'est Diane qui a reçu ce prix. C'est le prix de celui qui était le mieux assuré. C'est quoi?
Non, c'est pas ça. C'est le prix de celui, enfin de l'entreprise ou de l'artisan en tout cas, qui met en place un maximum d'actions concrètes de prévention dans l'entreprise. Parce qu'en fait, le rôle d'assureur, ça ne se limite pas qu'à couvrir des risques. C'est aussi, enfin nous en tout cas, faisons des actions de sensibilisation à la prévention auprès de nos clients ou auprès de prospects aussi. Et on a un réseau de spécialistes qui se déplacent, qui vont en entreprise et qui font des audits d'entreprise notamment. Pour alors c'est des audits gratuits, hein, c'est un service supplémentaire qu'on apporte. Et cet audit permet en fait de faire un état complet, un diagnostic complet de l'entreprise, des forces et des faiblesses en termes de prévention notamment. Et les forces, tant mieux, hein, ça c'est très bien. Si par contre il y a des faiblesses, l'idée c'est de conseiller justement l'artisan pour trouver des solutions concrètes de prévention, puisque de toute façon, plus je fais de la prévention, plus je connais les risques en tant qu'entreprise que je peux subir, plus je vais les anticiper, je vais pouvoir mettre en place des actions concrètes pour les éviter ou les diminuer. Et en tout cas, ça permet de diminuer l'impact du sinistre s'il arrive, et surtout permettre à l'entreprise de reprendre son activité au plus vite, puisque c'est ça l'intérêt.
Alors, Diane Geffroy.
Payer des primes moins chères.
Alors, justement, on va demander à Diane Geffroy qui est avec nous.
C'est la mutualité qui en profite, en tout cas.
Qu'est-ce que vous avez mis en place de particulier sur la prévention, justement, chez vous?
Nous, on a mis pas mal de choses en place.
Vous avez une entreprise de quoi, pardon?
Alors, en fait, il y a deux parties dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Il y a une partie barbier et une partie bar. Donc, on va avoir, on a mis en place des choses différentes sur les deux parties. Et puis après, sur le global de l'établissement. Donc, par exemple, pour les risques incendies, on va avoir les extincteurs. Donc ça va être dans tout l'établissement. Après, plus spécifiquement, sur la partie barbier, on va avoir tout ce qui est kit de secours. Si jamais quelqu'un se coupe, on va avoir tout à proximité.
Donc vous avez pensé, vous avez fait des listes de risques. Vous avez réfléchi à ce qui pourrait se passer potentiellement dans le futur.
Exactement. On a essayé vraiment de mettre en place... on a essayé d'évaluer les risques grâce au DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et en fait, du coup, ça permet de voir un petit peu quels sont les risques et qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition pour pallier à ces risques-là.
Ben merci beaucoup, Diane, et bravo à vous pour ce prix. Un mot sur l'évolution de l'apprentissage. On va en parler ensemble après la pause. Mais juste un mot ensemble à vous chez World Skills, José Fonseca. Est-ce que vous avez l'impression, là, on a plein d'artisans autour de nous, que la filière artisanale commence à avoir son blason redoré? On a parlé du bac juste ensemble avant en disant le bac, ça vaut plus rien. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, BEP, CAP, ça remonte?
Oui, c'est une impression que nous nourrissons. En tout cas, chaque fois que nous avons l'occasion de démontrer que nous avons en France des métiers fabuleux et des parcours qui mènent à la réussite, nous le faisons autant que possible. Et les artisans qui ont concouru hier ont montré que nous avons en France des artisans compétents, mais également épanouis dans leur profession.
Oui, ça a l'air, même ils recrutent, ils embauchent leurs frères, leurs sœurs. On va continuer ensemble à parler du grand concours du meilleur artisan de France. Nos artisans sont avec nous pendant toute cette heure jusqu'à 14h. On vous attend, vous, au 32-16 artisans. Appelez-nous pour nous raconter votre métier. On revient sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Neumann Le Chypre.
Troisième édition du concours des meilleurs artisans de France.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 15h sur RMC, sur RMC Story. Troisième édition du concours des meilleurs artisans de France. On vous en parle depuis le mois de février. Ça y est, la grande finale, c'était hier au Paris Event Center. On connaît les 7 lauréats, ceux qui vont se partager les 14 000 euros de cash quand même. Il n'y a pas que le tampon, il y a aussi de l'argent à gagner dans ce concours. On est avec nos 7 candidats. candidats qu'on va continuer de découvrir dans un instant. Mais on va parler recrutement aussi ensemble. Et puis, avenir de l'artisanat, image, vous nous appelez au 3216 pour nous parler de vos métiers. Avant d'aller voir nos artisans, un mot ensemble avec nos invités. On est toujours avec José Fonseca, délégué technique WorldSkills France, avec Michel Lascoutounas, directeur B2B Peugeot France, avec Patrick Babi, délégué général des relations avec les institutions professionnelles chez MAF Assurance, et avec Ludovic Bonnet. Il n'y a jamais eu autant de monde sur ce plateau qu'aujourd'hui. Et avec Ludovic Bonnet, directeur marketing et communication chez Big Mat. Ludovic Bonnet, on parlait tout à l'heure de la manière dont l'artisanat en France fonctionne et fonctionne bien. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas avoir un problème de recrutement si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui?
Bah effectivement, on a déjà ce problème. Nous, donc chez Big Mat, nous, on vend finalement, on est négociant de matériaux et on est le plus gros réseau en Europe. Donc, on voit nos artisans partout en Europe et notamment en France souffrir chaque jour du manque de collaborateurs pour recruter. On a beaucoup d'artisans, nous on est quand même très centré sur le bâtiment, qui nous disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas développer leur entreprise parce qu'ils ne trouvent pas à recruter, malgré tous les efforts qui sont faits effectivement par à la fois le gouvernement, au niveau de la formation, etc. Mais il y a encore de très très gros manques chez les charpentiers, chez les maçons, chez les plombiers, et on ne trouve pas de jeunes aujourd'hui, ou même de moins jeunes, parce qu'il y a des gens qui sont en reconversion, pour reprendre ces affaires-là ou simplement être salarié dans ces business-là.
Emmanuel, tu veux te reconvertir ?
80% d'entreprises ont des difficultés à recruter, alors que 94% des contrats qui sont proposés sont des CDI, que c'est plutôt bien payé globalement, 2000 euros en moyenne, et que vous n'avez aucun problème sur votre trajectoire de carrière, puisque vous allez avoir des commandes avec la rénovation énergétique, etc., des commandes jusqu'à votre retraite, même si vous commencez aujourd'hui.
C'est
quand même des perspectives incroyables avec un métier. Et moi, je crois que ça va beaucoup changer, qui est en train de révolutionner ces processus de production et qui va devenir moins pénible physiquement. Et ça, je pense que ça va être un atout considérable pour recruter.
C'est vrai, Ludovic Bonnet, mais en même temps, j'avais cru comprendre que depuis 2-3 ans, on assistait à un boom de l'apprentissage. Il y a eu des nouvelles règles, des moyens qui ont été mis. Il y a une vraie volonté gouvernementale de développer l'apprentissage. On est encore loin de ce qui se passe dans certains pays européens comme l'Allemagne, mais ça va mieux quand même.
Alors, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que le gouvernement fait beaucoup de choses pour pousser l'apprentissage. Toute la formation a été réformée et on voit effectivement une vraie appétence des jeunes. On a lancé, nous, une étude. On a vu aussi une très forte féminisation de tous ces métiers du bâtiment, hein, ce qui n'était pas évident au départ pour plein de jeunes femmes qui n'osaient pas se lancer. Malgré tout, on sait que pour former un apprenti, il faut 2-3 années. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça a commencé il y a 2-3 ans. Mais le temps que tous ces jeunes, ou moins jeunes, encore une fois, parce qu'il y a des reconversions, arrivent sur le marché et puissent remplacer des artisans qui partent à la retraite ou simplement postuler au poste ouvert, on a ce temps, cet effet ciseau où il y a encore encore beaucoup de choses à faire et on a encore beaucoup d'artisans, et selon les régions en plus, qui ont du mal à recruter aujourd'hui.
José Fonseca, il n'y a pas de problème de clients du tout pour les artisans aujourd'hui. C'est un problème d'humain et de recrutement.
Oui, globalement, vous l'avez souligné, toutes et tous autour du plateau, il y a d'énormes besoins. Il y a indéniablement du mieux, ça vient d'être répété, mais le chemin est encore long pour pouvoir pourvoir toutes les embauches qui sont disponibles aujourd'hui et également répondre aux projets de chaque jeune. Il nous faut, nous, en tant qu'acteurs de l'orientation et des professions, marier tous ces gens-là.
Ce qui manque, c'est les tuteurs. C'est la génération d'avant qui a été une génération.
Oui, mais pourtant, tu disais plein de trucs positifs.
Il y a plein de trucs positifs.
La qualité, le salaire, les perspectives de carrière. Allez-y, vendez la filière.
Bien évidemment, il y a des parcours d'excellence. On ne cesse de répéter. La voie de l'apprentissage, notamment, est une voie royale qui mène à des emplois, qui mène à des responsabilités, à des salaires qui sont souvent très attractifs. Mais, encore une fois, les métiers souffrent pas moment d'une mauvaise image ou en tout cas d'une méconnaissance.
Et n'oubliez pas un phénomène majeur qui est que aujourd'hui les jeunes, ils veulent du sens dans ce qu'ils font. Et la réalité, c'est que tous les métiers, alors il y a beaucoup de métiers de la construction, tous ces métiers qui étaient considérés comme des métiers où on salissait, entre guillemets, sont des métiers dans lesquels on nettoie aujourd'hui. C'est-à-dire que on a sali la planète avec la construction qui avait une image assez négative sur ce plan-là. Aujourd'hui, tout ce qui est fait pour rendre la planète plus propre, quand vous rentrez dans les métiers de la construction et du bâtiment aujourd'hui, vous contribuez à faire une planète plus propre, avec notamment tout ce qui va consister à faire des économies d'énergie, etc. Donc je pense qu'en matière de sens...
C'est fini de dire c'est un métier manuel, c'est pas intéressant.
C'est un métier sale, c'est un métier physique. C'est est encore physique, bien sûr. Mais quand on voit la rationalisation des processus de production permise, notamment par les nouvelles technologies, c'est des métiers qui vont aussi devenir moins pénibles. La féminisation, typiquement, tout ça, ça fait
alors
partie.
Alors là, si je compte nos artisans, on a...
On en a la moitié.
Ouais, c'est pas mal. C'est presque un peu moins de la moitié, mais c'est quand même pas mal. Justement, on va se tourner vers l'une de nos... On ne dit pas artisane, d'ailleurs. On dit artisan.
Artisan, on va aller voir Célia, c'est la lauréate de la coiffure. Et Célia, on va faire plaisir à Laurent. Il se pose la question depuis tout à l'heure. C'était quoi les épreuves hier pour la grande finale en coiffure?
On a eu coupe femme, on devait réaliser la même chose qu'une photo qu'on nous a donnée. On a eu coupe homme et barbe. Et on a eu une réalisation de chignon avec des vœux tirés au sort le matin même, en fait.
Tout ça sur le thème du Japon, toujours.
Tout ça sur le thème du Japon, sauf l'homme où on en était un petit peu éloigné quand même.
Alors, Emmanuel disait il y a un instant, c'est moins difficile qu'avant de faire ces métiers. Et s'il y a un métier difficile, c'est celui de coiffeur. Il faut rester debout 8 à 10 heures par jour. Physiquement, c'est pas simple, hein.
On a tous, je pense, des difficultés dans nos métiers, que ce soit physique ou finalement psychologique, parce qu'on soulève aussi beaucoup de soucis avec nos clientes. C'est des points qui sont différents et c'est pour ça qu'on choisit le métier qu'on aime et vers lequel on doit être, en fait.
Et alors moi, j'ai une question. Est-ce que sur la devanture du salon de coiffure, il va y avoir en gros meilleur artisan de France?
Non, je pense que mes clients vont m'en parler, mais ça me ressemble pas trop. Je vous avoue que je suis assez... Voilà, je vais leur en parler beaucoup.
Attends, Célia, c'est indispensable.
Mais elle a la médaille, elle peut porter la médaille au salon pour la montrer.
Oui, non,
pour le moment, tu as des clients et des clientes de Landerneau, si j'ai bien compris, mais demain, tu auras des clients de toute la Bretagne et peut-être de toute la France.
J'ai une idée. Alors là, ta coupe magnifique sur un mannequin, là, tu récupères la tête, tu mets la médaille autour du cou et tu le mets en vitrine. Dans ton salon.
Alors, il y a des gens spécialisés dans le marketing, pas forcément, peut-être. Voilà, peut-être laisser à chacun son métier, quoi. Bon, en tout cas, on parlait recrutement, on parlait d'artisans bien dans sa tête. Célia, est-ce que vous cherchez à recruter?
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. En coiffure, le salaire est un petit peu en dessous de ce que vous disiez, mais je pense qu'on a possibilité de le faire évoluer. Et justement, si on avait des personnes qui venaient se proposer demain, moi, je suis prête à payer plus cher quelqu'un qui me donne de la qualité. Ah, voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut valoriser. Et on est de plus en plus nombreux aujourd'hui, en tout cas dans mon secteur, à parler de ça. Donc moi, je cherche quelqu'un vraiment qui est motivé, quitte à le former du début et l'emmener loin, en fait. C'est le but de l'artisanat aujourd'hui, je pense.
Vous êtes jeune, Célia, mais quand vous voyez les jeunes suivre votre voie, vous essayez de les convaincre, de leur dire que c'est bien, qu'il faut qu'ils continuent.
Oui, j'ai été très touchée. J'ai eu des messages de jeunes ce matin qui me disaient que ça les avait fait rêver. Et je crois que c'est une victoire encore plus grande que celle d'hier, en fait.
On a l'impression d'avoir des artisans qui se sont éclatés hier.
C'est quasiment un des métiers les plus modernes, artisans, aujourd'hui.
Il faut que tu fasses une reconversion, hein, toi, clairement. Hein.
Mais nous, on est artisans, un peu journalistes, on fait ce qu'on veut, un peu.
On est des blablateurs, regarde, c'est pas exactement le même truc.
Tu fais des choses très concrètes qui te passionnent, tu es ton propre patron, t'as pas des hiérarchies invraisemblables qui viennent t'enquiquiner avec des
tops. D'accord.
Emmanuel,
et t'as un utilitaire.
Plaisir. Et en plus, t'as un super utilitaire
et
un super assureur.
Non, non, mais attends, tu oublies de dire qu'en plus, à chaque fois que tu travailles, tu as l'estime de soi de voir le résultat final.
Je me demande ce que vous faites là. Vraiment.
Parce que nous, quand on cause, je veux dire, deux minutes après, il n'en reste rien.
C'est vrai.
C'est faux. Voilà. C'est tellement puissant. Il y a de la puissance. Moi, je suis témoin de ça à chaque moment.
C'est ça, c'est frustrant.
Je pense que ce n'est pas une autre tête, mais j'en suis pas sûr. Tu bavasses, mais tu fais rien de concret.
Eh ben, dites donc, il va y avoir pour le prochain concours, ça va pas être une centaine de candidatures, ça va être plusieurs milliers. Déjà, tu iras faire toi-même des constructions, on saura plus quoi faire des candidatures. On a parlé carrière, on a parlé image de soi, on va parler âge aussi. On disait tout à l'heure, les artisans, bon là, on a que des jeunes quasiment autour de nous, mais vieillissent, il y a un problème de renouvellement des générations, de passation de ces petites PME, de transmission. Il y a un vrai sujet pour vous?
Oui, il y a un vrai sujet, puisque je pense que c'est la préoccupation de chacune des entreprises que de remplacer donc les personnes qui partent et qui partiront dans les années à venir à la retraite. Donc nous avons, nous aussi, un rôle important à jouer dans ce sujet pour que les jeunes fassent le choix de ces métiers-là et que nous les préparions à prendre la suite dans les années à venir.
On transmet aussi son utilitaire ou pas?
Transmet.
Non, mais moi, j'ai une passion pour l'utilitaire. Vous le savez pas, mais j'ai une certaine connaissance dans les véhicules utilitaires.
Par contre, si vous nous faites une bonne reprise.
Non, mais on transmet son.
Tu voudrais acquérir un utilitaire, je le sens.
Pour mettre mes enfants derrière, voilà, ouais.
Avec tout le matériel.
Non, mais on transmet son matériel, on transmet son fonds de commerce, mais aussi sa voiture,
et
j'imagine.
Sa voiture qui peut aller avec, bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que nous, en tant que constructeurs, on a aussi l'objectif de renouveler.
De vendre des meilleures voitures. Oui, très mauvaise
non, mais bien sûr. C'est d'où l'importance, c'est comme on le disait tout à l'heure, de bien cerner le projet dès le départ du client pour qu'effectivement, quand il y a un repreneur derrière, quand il y a une passation de métier, entre guillemets, que cette voiture accompagne le repreneur.
J'ai une question bête, parce que votre artisan, il use son utilitaire, il fait des kilomètres, etc. Il l'échange tous les combien, à peu près?
Alors, tout dépend, parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui passent par l'achat. Donc, là, on est déjà sur des démarches un petit peu plus longues. Après, effectivement, on a aussi des artisans qui passent par des contrats de location. Et donc, il y a un renouvellement qui est timé et qui est, je dirais, en général, entre 36 et 48 mois, on est dans ces périodes de renouvellement. Mais
Patrick Babi, est-ce que vous voyez cette nouvelle génération d'artisans? Alors, il y a toute une partie des jeunes diplômés qui arrêtent tout, qui changent complètement de voie. Ils ont fait HEC, puis tout d'un coup, ils se mettent à passer un CAP. Est-ce que vous voyez cette nouvelle génération arriver?
Alors, on en a qui arrivent pas obligatoirement qu'on fait HEC, mais des gens qui ont fait une carrière et qui ont réussi, effectivement, et qui, à 40, 45 ans, se disent, ben, j'avais envie d'être pâtissière, par exemple, je veux le faire, et je me lance, et j'ouvre ma pâtisserie. Donc là, il y a une vraie volonté, il y a un projet qui est construit, et donc, en général, ça se passe plutôt bien. Mais je rejoins aussi sur la transmission, c'est super important, c'est un vrai sujet, les transmissions d'entreprise aujourd'hui. Nous, on a beaucoup de nos clients qui ont plus de 50 ans, qui eux aussi, dans les années à venir, vont réfléchir à passer la main et leur entreprise. Donc on essaye aussi de les accompagner sur ce sujet pour échanger avec eux sur quelles solutions ils ont trouvées, ils ont anticipé, parce que on parlait d'anticipation tout à l'heure, mais c'est super important d'anticiper sa cession, on va dire, parce que ça se fait pas comme ça au dernier moment.
Mais ça veut dire quelque chose qui se prépare. Combien de temps avant?
Au moins 5 ans quelque part, voire peut-être plus, pour soit envisager de faire reprendre par un enfant, parce que des fois le fils ou la fille peut le faire et ça c'est très bien, soit un salarié qui n'y a peut-être pas pensé. Et donc c'est en ça qui c'est intéressant.
Mais 99% des entreprises de l'artisanat ont moins de 20 salariés. Donc on est sur des toutes petites structures. Et la plupart du temps, vous l'avez dit, c'est ou un enfant, quelqu'un, un membre de la famille. Mais très souvent, de plus en plus souvent, c'est un salarié de l'entreprise.
Mais ça veut dire qu'il faut y penser plus que 5 ans à l'avance. Voilà. Parce que le salarié, il faut
le faire grandir. À monter, voilà, tout à fait. L'aider à monter en compétences, l'aider à connaître toutes les démarches pour pouvoir créer l'entreprise. Parce que des fois, il n'a pas l'idée. Il va se dire, non, c'est trop compliqué, j'oserais pas. Et poussant un peu, l'artisan, il peut arriver à le faire.
Et on est dans des métiers où il ne suffit pas d'être bon en coiffure ou un excellent plâtrier plaquiste, il faut être aussi un juriste, un comptable, un DRH, il faut connaître au fond beaucoup, beaucoup de choses, et c'est peut-être ça le plus compliqué.
Bah oui, sûrement. José Fonseca, c'est ça, il faut avoir de multiples casquettes.
C'est ça, au-delà d'être un très bon technicien, il faut être un bon gestionnaire d'entreprise, gérer des équipes également, et ça se prépare, ça s'apprend également. Donc effectivement, l'anticiper, donc la succession, ou en tout cas donc la reprise d'entreprise, c'est un élément important.
Est-ce qu'il ne faut pas hésiter aussi à s'associer quand on n'est pas bon justement sur le plan technique?
C'est une solution, ça peut rassurer d'ailleurs le salarié en question, et souvent effectivement ça facilite la reprise derrière.
Ne restez pas seul. Moi j'avais une question, si Lisa-Marie peut revenir pour le micro pour demander justement à Célia. Célia, est-ce que vous avez repris votre boutique? Vous l'avez créée vous-même? Ça s'est passé comment?
J'ai eu une opportunité en fait à Landerneau de quelqu'un qui était parti depuis 2 ans pour maladie, et du coup voilà, j'ai eu vraiment cette opportunité qui était importante à attraper à ce moment-là en fait.
Donc c'était un magasin de coiffure déjà.
C'était une reprise, mais la clientèle était partie puisque 2 ans déjà, donc vraiment une recréation, et j'ai eu la chance d'avoir toute ma clientèle qui m'a suivie en fait du salon où je travaillais avant, donc ça a été un vrai tremplin.
Et comment on se découvre du jour au lendemain patron, patronne en l'occurrence, mais donc spécialiste de comptabilité, de problèmes juridiques, négocier avec tous les fournisseurs qui viennent vous apporter leurs produits. Enfin, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. On n'est pas seulement un bon ou un mauvais coiffeur.
Je crois qu'on en a envie vraiment ou pas. Après, on peut être bien entouré, effectivement, comme vous disiez, des commerciaux qui sont là depuis le début, même depuis qu'on est apprenti, qui vous ont monté un petit peu. Y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, je pense, ou qui se découvrent petit à petit avec l'âge, et il y a d'autres gens qui veulent ça depuis leurs 18-19 ans, comme c'est mon cas, et qui ont les parents, la famille derrière, qui motivent et qui ont confiance, et je crois que quand on nous donne confiance, ça nous donne les clés pour y arriver.
Alors, il n'y avait pas serrurier dans les artisans, mais on est avec un serrurier qui nous a appelé au 32-16, c'est Sébastien qui nous appelle depuis Rossillon dans l'Ain. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour madame.
Toi, tu es métallier serrurier dans le bâtiment. Voilà, on parlait tout à l'heure, Emmanuel faisait une publicité meilleure que les meilleurs spécialistes du marketing pour les artisans. Toi, tu dis, moi, mon métier, il est encore très pénible.
Ah oui, tout à fait. Oui. Et puis, je pense que c'est pas le... il n'y a pas que ce métier-là. Il n'y a pas que ce métier-là. Il y a encore beaucoup de métiers qui sont vraiment pénibles dans le bâtiment. Et quand vous arrivez à 40 ou 50 ans, vous êtes ruiné. Donc, je voulais aussi intervenir sur le fait de la pénibilité, mais aussi des salaires. Sont, oui. Là, j'entendais des salaires attrayants, mais je ne vois pas trop où sont les salaires attrayants. Vous avez de moins en moins de monde dans le bâtiment, puisque justement, c'est relativement mal payé. On demande des personnes qui sont qualifiées, on leur offre 1 ou 2 euros de plus que le SMIC, mais les gens ne prennent pas, moi non plus.
Alors, je regardais tout à l'heure, le salaire moyen parmi les salariés hein, de l'artisanat est quasiment équivalent au salaire moyen de l'ensemble des Français. Donc on n'est pas en dessous ou au-dessus, mais en revanche, il y a dans certaines disciplines, les salaires peuvent monter très vite, ne serait-ce que parce qu'il y a un déficit de d'artisans.
Oui, mais ça, manifestement, c'est ça que je comprends pas trop, Sébastien. S'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels c'est compliqué de recruter, la logique voudrait que...
C'est ce que nous disait Célia, je suis prête à payer plus cher.
Et toi, tu dis, il y a des difficultés de recrutement et pourtant les salaires n'augmentent pas.
Voilà, exactement. Je peux vous donner un exemple. J'étais responsable de chantier, donc en métallerie théorie. Je fabriquais un atelier, j'allais poser et j'avais des gars avec moi. Parfois deux, trois personnes dont j'étais responsable. J'atteignais difficilement avec les heures supplémentaires. On faisait 41 heures par semaine. Plus la prime de panier, j'atteignais difficilement les 1950 euros par mois. Voilà. Vous enlevez les primes panier, les heures supplémentaires, les responsabilités. Et pourtant, j'étais considéré comme étant bien payé.
Pardon, tu parles d'un salaire net, hein?
Pas salaire net, tout à fait, oui.
Salaire net, d'accord.
Sébastien, est-ce que malgré tout, tu as envie de dire aux jeunes d'aller bosser dans le bâtiment, se former?
Alors, à 100%, il faut aller dans le bâtiment. C'est vraiment, je le dis, moi j'ai des jeunes, j'ai des apprentis avec moi de temps en temps, ou même d'autres jeunes, je le dis, un CAP, à mes yeux, a beaucoup plus de valeur qu'un bac professionnel. Vous sortez avec un CAP, vous sortez avec un savoir-faire. Et si vous vous débrouillez bien, si vous arrivez à prouver votre valeur, vous vous en sortirez toujours mieux qu'en étant au SMIC, dans une industrie, derrière une machine. Ça, c'est clair.
Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir appelé au 32-16 pour débattre avec nous dans Neumann Le Chypre. Vous restez avec nous. On va continuer à faire la connaissance de nos artisans. On est en édition spéciale concours du meilleur artisan de France. Vous ne bougez pas sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Neumann Le Chypre.
Troisième édition du concours des meilleurs artisans de France.
Neumann Le Chypre, on est ensemble jusqu'à 15h sur RMC, sur RMC Story. On vous en parle depuis des mois et ça y est, c'était hier la grande finale du concours des meilleurs artisans de France. C'était au Paris Event Center. Ils ont scié, ils ont... qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont coiffé, ils ont fait des bouquets, voilà. Ils ont fait plein de choses.
C'est-à-dire, ils ont maçonné, mais ça n'existe pas. Donc, je me suis repris avant. Ils ont fait plein de choses. Ils ont,
carrelé.
Ils ont marouflé, peut-être. Ils ont carrelé. Je le connais. Carrelé, exactement. Il y a beaucoup d'épreuves. 14 000 euros à se partager entre les lauréats. Et on est avec nos gagnants qui nous accompagnent et également ceux qui ont permis ce concours, c'est les sponsors, c'est comme ça qu'on appelle ça. Comme ça, on est avec José Fonseca, délégué technique WorldSkills France, avec Michel Lascoutounas, directeur B2B Peugeot France, avec Patrick Babi, délégué général des relations avec les institutions professionnelles de chez MAF Assurance, et avec Ludovic Bonnet, directeur marketing et communication chez Big Mat. Quand on est artisan, c'est un peu comme quand on est profession libérale, qu'on est dentiste, avocat, on peut s'installer n'importe où, ce qui est quand un point important. Est-ce qu'il y a chez les artisans, José Fonseca, cette vision de liberté en disant « bon, bah moi, je me mets là où je veux ».
Alors, nous avons la chance, chez WorldSkills France, à travers l'organisation de la compétition des métiers, d'aller dans les territoires, rencontrer donc les jeunes, rencontrer également leurs encadrants, les entreprises qui les accueillent. Et c'est indéniable, ils sont des acteurs importants de la vie des territoires et ils ont une place à prendre en tant qu'artisan, futur artisan, pour animer ces villes-là. Donc, je pense que les métiers contribuent énormément à dynamiser une ville.
Oui, mais attends, tu poses une bonne question, parce que dans l'artisanat, par définition, on télétravaille pas. Donc il faut peut-être, avant de s'installer, choisir son bassin de clients potentiels. Donc on ne s'installe pas n'importe où. Enfin, je sais pas, moi je suis pas spécialiste, il faudrait poser la question, mais chacun de ces lauréats qui s'est installé quelque part a quand même choisi son endroit, j'imagine.
Mais est-ce que c'était pas un moyen de rester dans la région où vous êtes né, justement
Bah écoute, on va leur poser la question. Ouais. Lisa-Marie, si tu peux...
Vers Jérémy. Jérémy, c'est le gagnant, c'est le meilleur artisan plâtrerie plaquiste. Bonjour Jérémy, bonjour. Merci d'être là.
Merci, bonjour.
Il était avec nous hier déjà, Jérémy.
Oui, c'est ça, exactement.
Et il avait fini avant tout le monde. Moi, je me souviens,
normalement une petite heure d'avance pour le premier module, et donc j'ai pu gagner un peu de temps sur les deux autres. Et j'étais vraiment fier de moi. J'aurais pas pensé finir aussi tôt. Et ce métier-là, je l'adore parce que de plus en plus, on oublie le plâtre et on fait un petit peu plus de placo. Et le plâtre, c'est juste magnifique, en fait.
Et alors, est-ce que tu peux répondre à ma question quand tu as ta propre entreprise?
Oui.
Est-ce que tu as choisi, d'abord, est-ce que tu as fait une petite étude de marché avant de dire « je m'installe à tel endroit parce que là, je sais que je vais avoir tel ou tel client »
Je suis resté en Sarthe parce que voilà, j'ai vécu en Sarthe au début et je me suis dit je m'installe sur le Mans parce que c'est vraiment le centre de la Sarthe et c'est là où je vais faire beaucoup plus me faire connaître beaucoup de plus en plus. Donc et ça marche très bien. Ça marche de plus en plus.
C'est toi qui nous disais hier que tu augmentais ton chiffre d'affaires.
Exactement.
Par deux tous les ans.
Et c'est impressionnant parce que j'ai augmenté un tout petit peu mes tarifs depuis la première année. Parce que déjà la fourniture a augmenté aussi, comme ce qu'on disait tout à l'heure, et de plus en plus je gère un petit peu plus la Bretagne, un peu les Yvelines et le secteur d'Angers et le Mans.
Ah ouais.
Et on est actuellement maintenant deux, donc mon frère jumeau fait toute la paperasse et le patron travaille sur le tas.
Donc voilà. C'est une bonne organisation.
Exactement, parce que et je fais en sorte de venir avec le sourire du client et repartir avec le sourire du client.
Donc vous aussi, vous avez des problèmes de recrutement?
Pas du tout.
Ah,
pour moi, le plus important. Alors, il y a le mot sous-traitant qui est souvent mal vu, mais j'explique à souvent mes clients et ça, ils l'apprécient. Je choisis mes sous-traitants. Aujourd'hui, je pourrais les prendre en tant que salarié, mais s'ils se sont mis à leur compte, c'est pour une bonne raison. Et donc aujourd'hui, je les prends et ça marche très bien. Mais je prends de plus en plus de stagiaires parce que je leur fais comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est à zéro et qu'on est parti de rien qu'on peut pas remonter. Aujourd'hui, avant, j'ai eu des gros problèmes de, j'étais en SECPA et je fais de plus en plus des rendez-vous dans des collèges pour des enfants qui sont en difficulté et je mets une heure à leur expliquer qu'aujourd'hui, on peut avancer quand on le veut.
Et ils sont sensibles au discours justement,
oui,
de l'artisanat.
Ouais, réellement, et ils m'écoutent et ça c'est très important.
Eh ben c'est une bonne nouvelle. On est justement avec Marie.
On sait qui appeler quand on aura nos problèmes de macomoulage.
Exactement.
Oui, alors le macomoulage,
on passera plus la tête en démoulant.
C'est vrai, c'est les jeux de moulage pour enfants ou quand on démoule et on peut avoir des traumatismes et casser des têtes de sirènes. C'est vrai que c'est très traumatisant. On est avec Marie qui nous appelle au 32-16 depuis Rennes, qui est retraitée de l'enseignement en histoire-géographie. Bonjour Marie.
Bonjour tout le monde.
Toi, tu as l'impression que les professions manuelles vraiment se sont redorées aujourd'hui?
De plus en plus. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps au lycée professionnel. J'ai aussi un CFA qui était annexé à mon lycée pro. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés vers ce genre de métier.
Oui.
Et j'ai eu aussi d'excellents élèves qui auraient pu éventuellement suivre une voie générale. Pardon. J'en ai quelques-uns. Ouais. Ils sont assez rares, mais ils auraient pu.
Mais t'as l'impression, donc retraité, donc ça fait déjà un moment que tu
six
es
mois,
plus dans le...
Six mois,
oui, dans des jeunes, t'es une jeune retraitée, mais dans ta carrière, tu as vu quand même cet apprentissage reprendre de l'intérêt du poil de la bête par rapport aux autres filières, ça a évolué.
Alors moi, je vous parle, moi ce que j'avais envoyé mon message en disant, attention, il y a le général, il y a l'apprentissage, et puis au milieu, il y a le professionnel, parce que moi je travaille en lycée professionnel à plein temps, donc nos élèves, ils sont là toute la journée, comme dans une classe, sinon qu'ils vont en stage, etc. Je trouve qu'on redore, mais en même temps, il y a un attrait très fort pour le général, parce que ça offre des perspectives entre guillemets sur le papier, hein, qui sont largement plus importantes. Parce que j'ai écouté les salaires tout à l'heure. Moi, je travaille essentiellement autour des métiers de l'agriculture, hein, et les salaires, c'est pas ça, quoi. Mm. On est loin de ça. Moi, je travaille avec des élèves qui vont aller travailler en EHPAD, vous connaissez. Oui. J'ai des élèves qui vont travailler dans le paysage. Les salaires sont pas mirobolants, hein.
Ouais, donc en fonction quand même du secteur de l'artisanat, il y a des disparités, oui Laurent.
Ah, d'ailleurs, je vous pose la question en l'occurrence, mais on pourrait la poser à Marie, mais on pourrait la poser à José Fonseca. Mmh. Il y a un cliché qui consiste à dire faire appel à un artisan, ça va peut-être être bien, mais ça risque de coûter cher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Ce qui me paraît en tout cas vrai, c'est que si on ne fait pas appel à des gens compétents, ça peut coûter encore plus cher.
Donc la qualité, ça se paye.
Exactement.
Donc l'idée, non mais c'est vrai, quand on veut faire des travaux chez soi, par exemple, je parle des particuliers, on se dit bon, j'ai le choix, je fais appel à une entreprise ou je fais appel à un petit artisan. Sous-entendu, une grande entreprise, on sait le métier, ou un petit artisan. Alors je vais peut-être aller trouver la qualité, mais on dit toujours c'est plus cher. Et alors c'est pas vrai, non. C'est pas vrai. Quand on fait le test, finalement, ça vous coûte souvent moins cher et je vous le dis, le travail est mieux fait. Donc privilégiez les artisans.
Ludovic Bonnet, directeur marketing et communication chez Bigmat. On parlait de l'apprentissage. On a presque l'impression qu'il y a une espèce de voie pour sortir certains jeunes de situations compliquées, une voie qui valorise, une voie qui permet de s'en sortir. Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il y a cet atout à travers l'artisanat?
Ah bah complètement. Et puis vous parlez de jeunes pour les sortir. La manière dont vous tournez la phrase, on dirait que ça continue à dévaloriser l'artisanat. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en filière générale au collège, au lycée, puis d'un coup découvrent l'artisanat, et tant mieux d'ailleurs. Et nous, on a sorti il y a quelques jours ou quelques semaines une enquête Big Mat Opinion Way là, sur justement les artisans aujourd'hui du bâtiment. Alors nous, on est dans le bâtiment, hein, donc je veux pas généraliser. Mais en tout cas, 95% d'entre eux disent qu'ils sont très fiers d'avoir choisi cette voie et qu'ils ne feraient pas un autre choix aujourd'hui. Donc, c'est important de montrer aussi que, effectivement, vous parliez de salaire, je pense que selon les secteurs, ils sont plus ou moins hauts. Dans le bâtiment, il y a des vraies tensions, il y a des salaires qui peuvent être intéressants. Et les jeunes, aujourd'hui, effectivement, ils ont une appétence. Et vous le disiez, ça, c'est un très porteur de sens. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde cherche du sens. L'artisanat, ça donne du sens. Et on voit que les gens qui l'ont choisi en sont fiers.
Est-ce que c'est pas aux parents qu'il faut dire ça?
Oui, c'est
plus bien sûr, jeunes eux-mêmes.
Parce que bien sûr que c'est aux parents, mais parce que je pense que pendant des années, il y a eu des politiques où on a dévalorisé l'artisanat aux yeux de tout le monde, hein, des populations entières, en disant qu'il valait mieux faire des études générales. Et aujourd'hui, l'histoire montre que finalement, il y a plein de gens qui, comme le disait la dame qui est intervenue, qui se lancent des fois dans des études et puis qui se disent mais où est le sens dans ça et dans ce que je vais faire, voire même dans ce que je fais, voire même, vous l'avez dit, des cadres qui à 40, 50 ans se disent mais finalement, c'est où le sens de ma vie, alors que quand je construis quelque chose, au moins je vois le résultat.
N'attendez pas 40 ans pour devenir pâtissière, ça sera le message de cette émission. Un grand merci, Marie.
Pas du tout.
Mais je serais une très mauvaise commerçante, je pense que personne n'a de doute.
Parmi tous les métiers là, qu'on a vus, lequel aurait été tes faveurs?
Moi, je ne sais que parler dans le micro.
Ah, d'accord, tu ne sais rien faire de tes 10 doigts.
Non, je danse pas trop mal, mais pas juste à faire un petit spectacle,
c'est
tu vois. Merci beaucoup à Marie qui était avec nous depuis le 32-16. Un grand merci à tous. Merci beaucoup José Fonseca d'avoir été avec nous, délégué technique WorldSkills France. Merci Michel Lascoutenas, directeur B2B chez Peugeot France. Merci Patrick Babi, délégué général des relations avec les institutions professionnelles de MAF Assurance. Et merci également à Ludovic Bonnet, directeur marketing et communication chez Big Mat. Merci surtout à tous nos artisans. Et bravo à vous tous, Célia Vandeval, Mathieu Traîneau, Renaud Alfaro, Jérémy Hainaut, Mathilde Mortier, Maxime Lévesque, et Kevin Brandt et Diane Geffroy. Bravo à vous d'avoir gagné ce grand concours des meilleurs artisans de France. L'année prochaine, 4e saison pour le concours. Il faudra peut-être remettre sa médaille en jeu. Vous restez avec nous.
Des nouveaux métiers aussi.
Et des nouveaux métiers. Bah, il en manquait plein des métiers. Il y a tellement d'un métier différent. Bon, après, on ne peut peut-être pas tout couvrir. Ça fait beaucoup de monde. Restez avec nous sur RMC. Dans un instant, on va parler des tornades, de la canicule, du rapport du GIEC. Est-ce que vous avez peur du dérèglement climatique? Pour Laurent, c'est oui. Pour Emmanuel, c'est non. On vous attend au 32-16 sur RMC, sur RMC Story. On vous dit à demain. Salut.
RMC, midi 15h, Neumann le Chypre.
3e édition du concours des meilleurs artisans de France.